Comme d'habitude, la compagnie des auteurs qui commence tout de suite est menée par tout un équipage. Corinne Amard, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Gauthier Amiel, réalisation Lise Combe, à la technique Emmanuel Morse-Duncan.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, troisième moment de notre série consacrée à Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, ou Michel Thomas pour l'état civil, est né à La Réunion en 56 ou bien en 58 selon les versions. Il a commencé son œuvre par l'écriture de poésie, qui reste pour lui une discipline centrale. Et sa poésie, lyrique et déroutante, joue sur la trivialité et fait sentir, comme le font aussi d'ailleurs ses romans, l'inhumain du monde tel qu'il le voit. Nous en parlions lundi avec Agathe Novak Le Chevalier dans une émission à réécouter en podcast. Également à réécouter la rencontre hier avec Raphaël Sorin et Jacques Henrique, le premier et l'éditeur qui a véritablement lancé et accompagné Houellebecq durant 10 ans, il nous a raconté tout cela. Le second a fait le constat de la grande solitude de l'écrivain au sein du milieu littéraire, un peu comme Georges Bataille en son temps, nous a-t-il dit. Demain, deux autres versions de Houellebecq. D'abord celle de l'écrivain Thomas Claire, qui a participé au Cahier de Lerne récemment paru. Et puis en seconde partie, nous parlerons de la ville dans l'œuvre de Houellebecq avec l'architecte Clémentin Rachet qui a publié un livre sur la question, c'est aux éditions B2. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux contradictions de Michel Houellebecq en nous demandant aussi quelle est la part de provocation chez l'auteur de Soumission. Je reçois pour ce faire Bruno Viard, il est professeur de littérature française à l'université d'Aix-Marseille. Et pour lui, Houellebecq est un auteur paradoxal, vous allez l'entendre, mais aussi un auteur qui a ouvert le 21e siècle. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Les débuts du gouvernement d'union nationale, mis en place par Mohamed Ben Abbès, étaient unanimement salués comme un succès. Jamais un président de la République, nouvellement élu, n'avait bénéficié d'un tel état de grâce. Tous les commentateurs étaient d'accord là-dessus. Je repensais souvent à ce que m'avait dit Tanner, aux ambitions internationales du nouveau président, et je notais avec intérêt une information pratiquement passée sous silence. La relance des négociations sur sa prochaine adhésion entre le Maroc et l'Union européenne. En ce qui concerne la Turquie, un calendrier avait déjà été établi. La reconstruction de l'Empire romain était en marche donc, et sur le plan intérieur, Ben Abbès accomplissait un parcours sans faute. La conséquence la plus immédiate de son élection est que la délinquance avait baissé, et dans des proportions énormes. Dans les quartiers les plus difficiles, elle avait carrément été divisée par 10. Un autre succès immédiat était le chômage, dont les courbes étaient en chute libre. C'était dû sans nul doute à la sortie massive des femmes du marché du travail, elles-mêmes liées à la revalorisation considérable des allocations familiales, première mesure présentée symboliquement par le nouveau gouvernement. Le fait que le versement soit conditionné à la cessation de toute activité professionnelle avait un peu fait grincer des dents au début à gauche. Mais au vu des chiffres du chômage, les grincements de dents avaient rapidement cessé.
Un extrait de Soumission, le dernier livre de Michel Houellebecq, un livre qui, par son sujet, l'arrivée au pouvoir d'un président musulman, n'a évidemment pas manqué de faire polémique. Bonjour Bruno Viard. Alors Soumission, bonjour. Faut-il en rire ou en pleurer de ce livre Soumission ?
Ah, ben c'est, je crois, comme tous les livres d'Houellebecq, il y a quelque chose de navrant dans la peinture qu'il fait du monde moderne et contemporain, mais il le fait toujours sur un mode qui va de l'hilarant, du burlesque, du comique, jusqu'à un humour très fin. Vraiment, il décline toutes les nuances. Et ces deux faces, c'est en même temps les contenus, qui sont en effet affligeants et à pleurer, c'est certain. Mais le miracle de l'écriture fait que c'est extrêmement réjouissant et que on rit beaucoup. Mais en même temps, il y a cette ambiguïté de l'humour et du second degré qui fait que c'est complexe et son écriture est intrinsèquement complexe, à mon sens.
Et alors, pourquoi n'a-t-il pas été compris comme étant un livre humoristique, une farce, si l'évidence saute aux yeux? Parce que il n'y a pas que des journalistes qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont pas compris. Il y a aussi des critiques qui l'ont lu et qui ont quand même dit que pour eux, il fallait plutôt en pleurer qu'en rire.
Bon, d'une façon générale, hein, je reprends ce que je disais, je crois que Houellebecq est à la fois très simple, on l'a dit, à cause de son écriture limpide, mais véritablement complexe pour ce qui est des intentions. Alors, pour soumission, évidemment, comme il intervient par rapport à l'actualité de façon qu'on peut juger provocante, mais il met les pieds dans le plat sur un tas de thèmes que nous avons autour de nous, ça provoque des réactions immédiates. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul si on veut bien évaluer les choses. Et cette question de l'islam qu'il pose, d'où vient-elle chez lui? Comment le revirement apparent, puisqu'il avait proféré des paroles très 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 gênantes,
que la religion la plus bête, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Et encore, c'est un euphémisme,
oui,
la plus bête.
Con, ouais.
Voilà. Donc où sommes-nous avec ce livre qui est, je crois, une tragicomédie, hein, pour reprendre votre question liminaire. Une tragédie parce que la République est morte. Voilà. Le constat de départ, la République est morte. Alors, si c'est vrai, nous sommes mal. Mais en même temps, c'est une comédie. Et je crois que le prendre totalement au sérieux est vraiment une erreur de lecture. Je dirais pourquoi.
Alors, faut-il en rire ou en pleurer? C'est par cette question que vous commencez votre essai « Houellebecq au laser, la faute à mai 68 ». Il y a beaucoup de livres de vous dans lesquels il est question de Houellebecq. C'est vrai qu'on pleure beaucoup chez Michel Houellebecq. Il a lui-même la larme assez facile, d'une certaine façon.
Il pleure, oui, il fait pleurer. J'ai rencontré une étudiante qui me disait en effet qu'elle pleurait toujours à chaudes larmes, toujours au même passage, quand elle relisait en particulier « Les particules élémentaires ». Et bon, pourquoi peut-on plaire? Mais parce que finalement, la spécialité d'Houellebecq, c'est de décrire les perdants, les losers de notre société, les solitaires, les filles moches que personne ne regarde, les vieillards abandonnés, etc. Et donc, c'est toute une dimension, peut-être par laquelle on peut entrer d'abord dans son œuvre.
Mais par exemple, quand il fait l'éloge du tourisme sexuel dans Plateforme, faut-il en rire ou faut-il en pleurer?
Nous sommes dans cette ambiguïté dont je parlais dans le début, c'est-à-dire que on n'arrivera jamais à répondre par oui ou par non, de façon simple, à la question « est-ce une satire ou un éloge du tourisme sexuel ?» Même chose dans Soumission, « est-ce une satire ou un éloge de l'islam ?» C'est plus compliqué que ça.
Hein? Alors, on le comprend déjà dans ce que vous dites, Bruno Viard, au fond, chez Michel Houellebecq, on trouve tout et son contraire. Et c'est finalement le paradoxe qui est le mot le plus approprié pour décrire la position de Michel Houellebecq.
Oui. Alors, pour répondre à cette remarque, j'aurais envie, si vous permettez, de dire un mot de ma méthode de lecture. Je remarque que Houellebecq, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, est un extrémiste. Je veux dire, son écriture est hyperbolique. Il pousse toujours les choses au maximum, aussi bien d'ailleurs dans la critique de l'individualisme, qui est le fond de sa pensée, que dans les solutions extrêmes, bon, par exemple l'islam. Nous sommes toujours dans les extrêmes, avec peut-être un certain manichéisme. Alors, ma méthode de lecture par rapport à ça, c'est de dire, quand nous repérons un trait exalté chez un auteur, c'est de la psycho, ça, c'est valable aussi en dehors de la littérature, cherchez le contre-pôle, il existe toujours. Et faute de prendre en compte la bipolarité de l'écriture de Houellebecq, mais je généralise cela, on risque de n'y voir que d'un œil et de beaucoup se tromper, parce que nous savons bien que la sensation du relief n'est donnée que par la vision binoculaire. Et j'ajouterai que Cette psychologie, je la tiens d'un auteur très méconnu qui s'appelle Paul Diehl, D-I-E-L, mais si clairvoyant à mon avis, et dont je fais mon miel depuis des années à la place de Freud, et qui nous dit « une exaltation ne va jamais seule ». Ou pour le dire d'une autre façon, lorsqu'une valeur se dégrade, et la valeur suprême qui traverse toutes les œuvres de Houellebecq et peut-être nos vies, mettons que ce soit l'amitié, la paix, la cordialité, des valeurs comme celle-là, eh bien quand elle se dégrade, elle se divise en deux pseudo-valeurs de polarité opposée. Donc quand on a trouvé l'une, cherchez l'autre. Mais elles seront aussi exaltées, c'est-à-dire démesurées l'une que l'autre. Donc c'est une pensée de la mesure et de la pondération qui me permet d'aborder une œuvre comme celle-là, même si elle est à l'inverse.
Donc elle n'est ni mesurée ni pondérée.
Pas du tout.
Alors pour reprendre par exemple Plateforme, je disais à l'instant qu'il était un écrivain paradoxal. Dans Plateforme, on a à la fois des moments où on décrit la prostitution de manière assez crue et des moments où finalement on a le sentiment que l'auteur veut nous parler d'amour. Est-ce que sur cette question justement du rapport entre les hommes et les femmes, on n'a pas mis en relief encore plus qu'ailleurs ce paradoxe que vous venez d'énoncer, ces deux pôles ?
Bon, je crois que c'est la bonne entrée. Parce que je dirais que la question de la filiation est ce qui hante Houellebecq. Hein, quand on regarde sa biographie, comme il a été fait lundi dernier, on l'a bien vu. La question de la filiation, ou plutôt de la rupture de filiation, le hante. Et dans la filiation, il y a l'alliance et la généalogie, avec le rapport sexuel qui l'obsède complètement. Mais qu'est-ce qu'il nous en dit ? Et c'est là qu'il y a deux voix VOX qui se combinent et sur lesquelles il joue avec beaucoup d'habileté. Je crois que la voix dominante est celle qui nous dit que la filiation est absolument indispensable à notre identité et à notre sécurité affective, et aussi la République elle-même s'intéresse. Ça, c'est Rousseau qui pourrait dire cela, mais je crois que Houellebecq souscrirait à ce que nous ayons des personnalités structurées. Le monde moderne offre, en tout cas à ses yeux, un spectacle complètement opposé. Et nous ne pouvons pas tout à fait faire comme si nous ne savions pas de quoi il parle. Donc, la question des relations sexuelles est tout à fait centrale. Et il nous décrit ces relations sexuelles sous deux formes, hein, vous l'avez signalé. D'une part, la désagrégation, l'atomisation, le sexe triste ou le sexe instantané et qui ne permettra jamais la constitution d'un couple. Et en même temps, il nous décrit cette prostitution généralisée qui est le thème de Plateforme. Alors, comment s'y retrouver là-dedans ? Comment s'y retrouver là-dedans ? Alors, il y a cette fameuse ambiguïté dont j'ai parlé, mais je crois qu'il faut la dépasser. Et je suis convaincu qu'il y a ce que j'appellerais un logiciel caché dans l'esprit de notre auteur, et que ce n'est qu'en bien labourant et retournant ces textes de long en large et exhaustivement qu'on arrive à le découvrir. C'est pourquoi la lecture n'en est pas si simple. Sous une impression d'évidence. On a l'impression qu'on a tout compris du premier coup, et je pense que c'est plutôt le contraire.
On va essayer d'entrer progressivement dans cette émission, dans ce logiciel caché, mais d'abord je voudrais illustrer ce que l'on disait sur Plateforme et la question sexuelle.
Le mouvement fit remonter ses seins, elle ne portait pas de soutien-gorge. Je posai les mains sur sa taille, approchai mon visage du sien. Elle ouvrit les lèvres, glissa tout de suite sa langue dans ma bouche. Je fus traversé par une excitation violente, à la limite de l'évanouissement. Je me mis aussitôt à bander. Sans décoller son pubis du mien, elle repoussa la porte-palière qui se referma avec un bruit mat. La pièce, uniquement éclairée par une lampe de chevet, paraissait immense. Valérie me prit par la taille et me conduisit à tâtons jusqu'à sa chambre. Près du lit, elle m'embrassa à nouveau. Je remontai son t-shirt pour lui caresser les seins. Elle chuchota quelque chose que je ne compris pas. Je m'agenouillai devant elle en faisant glisser son bas de jogging et sa culotte, puis je posai le visage sur son sexe. La fente était humide, ouverte, elle sentait bon. Elle poussa un gémissement et bascula sur le lit. Je me déshabillai très vite et entrai en elle. Mon sexe était chaud, traversé de vifs élancements de plaisir. « Valérie, dis-je, je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps, je suis trop excité. » Elle m'attira vers elle et chuchota à mon oreille « Viens ». À ce moment, je sentis les parois de sa chatte qui se refermaient sur mon sexe. J'eus l'impression de m'évanouir dans l'espace. Seul mon sexe était vivant, parcouru par une onde de plaisir incroyablement violente. J'éjaculais longuement, à plusieurs reprises. Tout à fait à la fin, je me rendis compte que je hurlais. J'aurais pu mourir pour un moment comme ça.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Michel Houellebecq avec Bruno Viard et cet extrait de Plateforme. Vous dites, Bruno Viard, qu'il y a chez Houellebecq une double voix narrative et que cette double voix narrative, elle brouille les pistes. En l'occurrence, dans Plateforme, la voix dominante, elle est cynique et pornographique. Et il y a une autre voix qui est cette voix de l'amour maternel, de l'amour conjugal. Et les deux, finalement, sont inséparables l'une de l'autre.
Oui, alors je vais essayer de répondre à ça. Peut-être un mot sur la lecture, la citation qu'on vient d'entendre. Il ne me viendrait pas à l'esprit, c'est un texte très impudique, bien entendu, mais il ne me viendrait pas à l'esprit, je pense, de le qualifier de pornographique. Il est au contraire très lyrique et en regard d'un texte pareil, il y en a d'autres qui décrivent le sexe triste, mais ce n'était pas le cas.
Vous voulez dire chez Houellebecq, hein. Il n'y a pas de pornographie jamais chez Houellebecq?
Si, il y en a, beaucoup, mais pas dans ce passage, ni dans d'autres semblables. Là, c'est au contraire que le sexe glorieux, le sexe heureux, c'est le bonheur androgynique, et c'est parfait, à mon sens en tout cas. Mais en contraste, il y a des textes tout à fait différents, beaucoup plus provocateurs, beaucoup plus gênants, de par l'usage du vocabulaire, ou quand il nous parle de masturbation, c'est beaucoup moins satisfaisant.
Alors, je rebondis sur la question des deux voix. Une voix pornographique, alors pas pornographique.
Elle existe, si.
Mais
elle
là, en l'occurrence, aussi. pas dans cet extrait. Une voix d'un sexe cru et une voix plus maternelle, plus maternante.
Oui. Alors vraiment, je crois que c'est tout à fait frappant. Ce qui frappe le plus, parce qu'il y en a une qui apparaît quand même, et c'est celle qui, quand on dit Houellebecq, pour les gens qui le connaissent pas beaucoup ou pas du tout, c'est le côté sulfureux, en effet pornographique et provocateur, qui existe abondamment. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Il y a aussi l'usage, pour ne plus parler seulement du sexe, de l'invective, par exemple, vis-à-vis de ses ennemis. Il a quelquefois des expressions extrêmement brutales et dérangeantes. Bon, ça, c'est le Houellebecq cynique et peut-être aussi nihiliste, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, provisoirement, on peut mettre ça ensemble. Mais en effet, à côté, alors là, je vais y insister parce que ça apparaît peut-être moins, mais c'est tout à fait essentiel. Il y a un Houellebecq que j'hésite à appeler mystique, vous voyez, je prends des grands mots, ou romantique, en tout cas moraliste, et j'ai préparé une petite liste. Tous les lecteurs ont-ils bien vu que Houellebecq est un fan de la Vierge Marie,
ah oui,
qu'il nous parle avec beaucoup de piété de la communion des saints, que c'est un apôtre de la bonté et de l'amour, notamment dans Plateforme, ce roman de la prostitution, que il ne cesse de répéter qu'une société ne peut vivre sans religion. C'est aussi de façon très baudelairienne un homme qui célèbre les grands-mères, en tout cas les siennes, mais celles de leur génération, comme de véritables saintes.
Et qui reprend même comme pseudonyme Houellebecq, le nom de sa grand-mère.
Exactement. Il est hanté par la filiation, je l'ai indiqué, et j'ajouterai que son intérêt va aussi vers le socialisme et vers la République. Donc là, nous ne sommes plus dans le cynisme du tout.
On va essayer de creuser encore cette pensée houellebecquienne en remontant à Rester vivant, qui est un de ses premiers textes et qui est un essai.
La société où vous vivez a pour but de vous détruire. Vous en avez autant à son service. L'arme qu'elle emploiera est l'indifférence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'adopter la même attitude. Passez à l'attaque. Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler. L'envers du décor. Insistez sur la maladie, l'agonie, la laideur. Parler de la mort et de l'oubli, de la jalousie, de l'indifférence, de la frustration, de l'absence d'amour. Soyez abject, vous serez vrai. N'adhérez à rien, ou bien adhérez, puis trahissez tout de suite. Aucune adhésion théorique ne doit vous retenir bien longtemps. Le militantisme rend heureux et vous n'avez pas à être heureux. Vous êtes du côté du malheur, vous êtes la partie sombre.
Restez vivant, Bruno Viard, un essai que particulier quand même de Michel Houellebecq. Est-ce que c'est l'exposition dès 1991, puisque c'est la date de parution de ce livre, de la pensée, de la vision du monde de Michel Houellebecq?
Je dirais oui. J'ai noté certaines inflexions dans sa pensée depuis 25 ans, très légères. Mais il me semble que la problématique sous-jacente, ce que j'ai appelé le logiciel caché, n'a guère varié. Et que ce pessimisme noir, qu'il emprunte à Schopenhauer, mais qui est surtout incrusté dans son cœur, lui sert de guide avec cette remarque, c'est que le ressentiment dont il nous parle, écrire à partir de son ressentiment, c'est quelque chose d'inavouable. Mais qu'il avoue, au contraire, de façon très étonnante, avec je crois que La Rochefoucauld l'a dit, le ressentiment est le sentiment le moins avouable de tous.
Et ces inflexions, alors vers quoi évolue-t-il, si peu qu'il évolue ?
Oh, elles sont très mineures. Je ne sais pas si j'ai beaucoup envie d'y insister maintenant. C'est du côté de la politique. J'ai noté par exemple que il faisait un certain éloge de l'Union soviétique. Ça devait être autour de la chute du mur de Berlin, peut-être au lendemain, je ne sais plus exactement. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Il a au contraire fait le procès du castrisme. Et de même, il lui est arrivé de dire que les différences individuelles entre chacun d'entre nous n'avaient aucun prix. Et il me semble qu'il a dit le contraire plus récemment. Donc il a mis de l'eau dans son vin sur certains thèmes. Enfin, je ne sais pas si ça touche, encore une fois, à sa pensée profonde.
Alors, dans cet essai, Houellebecq au laser, La faute à mai 68, vous remontez dans le temps, jusqu'à l'époque où les parents de Michel Houellebecq, au fond, étaient jeunes, au moment où ils ont eu Michel Houellebecq, un petit peu après. Et vous trouvez, dans ces événements de mai 68, une sorte de matrice à la pensée de Michel Houellebecq. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le pessimisme fondamental de Michel Houellebecq trouve ses sources, ou peut les trouver, selon lui, dans mai 68 ?
Alors oui, je suis content de parler de mai 68, mais plus je me penche sur cette œuvre, plus je m'aperçois qu'il y a une perception historique des choses. On a l'impression que Houellebecq est un écrivain de l'ultra-contemporain, de la postmodernité, et il a été écrit à différentes reprises, qui n'avait pas de vision historique.
En tout cas, on a dit qu'il saisissait mieux que d'autres le contemporain.
C'est sans doute vrai, enfin, on peut en discuter, mais en dépit de cette affirmation, il y a une vision historique, et même à très long terme. Alors, mai 68 est événement, et nous en sommes déjà éloignés de pas mal d'années, c'est bien sûr un événement historique, mais il y en a bien d'autres. Je dirais que mai 68 est finalement le dernier acte, ou l'avant-dernier acte, peut-être la chute du mur de Berlin, dans le processus de libéralisation de toute chose. Alors, si vous voulez, la prise de la Bastille, c'est la libéralisation politique. 1830, c'est la libéralisation économique. 1914 ou 13 avec Apollinaire, je ne sais plus, c'est le vers libre. Oui. Et 1968, c'est la libéralisation sexuelle. Bon, pour lui, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire la catastrophe.
Il mentionne ces étapes-là ou c'est vous qui les mentionnez ?
Non, ça c'est moi qui parle. Mais pour ce qui est de la Révolution, je pense qu'il pourrait souscrire à ce que je viens de dire. J'en suis même certain. Je pourrais argumenter. Mais c'est moi qui dis les choses ainsi, c'est vrai.
On vous fait confiance. Et donc, alors, 68 ?
Eh ben, 68, évidemment, c'est sa génération. Donc il est particulièrement concerné, et plus ou moins la nôtre, ou celle de nos parents, selon nos âges. Donc pour lui, c'est en effet véritablement le gravier qui achève de faire dégringoler tous les boulis.
Mais plus que sa génération, c'est peut-être la génération de ses parents, parce que oui. Ses parents étaient dans la pensée de 68, plus que lui, qui avait 10 ou 12 ans, selon qu'on décide qu'il est né en 56 ou en 58. En tous les cas, il voit dans cette libéralisation extrême, et peut-être dans le fait qu'il ait été abandonné par ses parents, un problème de société majeur.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il était plutôt un enfant de mai 68. Hein, et ses parents, d'ailleurs, étant un petit peu anciens et appartenant à une génération qui a commencé cette libéralisation. Enfin, bon, peu importe les dates exactes. Dans le fond, ce que Houellebecq a dans le collimateur, du début jusqu'à la fin, c'est la libéralisation de toute chose. Et quand je dis de toute chose, il y a là alors un autre paradoxe qui est très différent de ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est que si vous êtes de droite, vous êtes plutôt libéral dans le domaine économique et favorable à une certaine autorité, à une certaine règle dans le domaine moral. Mmh. Si vous êtes de gauche, il me semble que c'est l'inverse.
Logiquement, mais maintenant,
tout explose. Non, après, on peut tout imaginer, mais justement. Hein, si vous êtes de gauche, vous êtes pour une certaine régulation dans le domaine économique et plutôt libéral dans le domaine moral. L'originalité de Michel Houellebecq, c'est qu'il est anti-libéral en tout. Et donc favorable à une importante régulation en toute chose. Ce qui est une position, je crois, assez rare et qui demande à être commentée. Il a au moins le mérite de la cohérence. Il y a une page fameuse dans l'extension du domaine de la lutte où il nous dit, en somme, j'extrapole à peine, depuis mai 68, puisque nous en parlions, depuis mai 68, il y a un deuxième système de concurrence et de rivalité qui s'est institué entre les hommes, c'est la concurrence sexuelle. Alors qu'avant, nous étions déjà affligés de la concurrence économique qui faisait des cas qu'on sait avec des gagnants et des perdants. Et bien maintenant, nous sommes très mal barrés parce que nous avons ces deux concurrences et une grande minorité de gagnants et une masse de perdants.
Oui, et donc finalement, il y a cette métaphore de la fête qui le prend, ou que vous prenez d'ailleurs, je ne sais pas, pour expliquer au fond que la fête, c'était l'endroit de la concurrence. Parce que dans une fête, si on est beau, ça va. Si on n'est pas beau et qu'on n'arrive pas à trouver de partenaire, à ce moment-là, ça devient l'endroit du supplice, en fait, ces endroits d'amusement. Donc l'homo festivus, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui fait souffrir Michel Houellebecq.
Oui. Alors, il y a un parti pris évident quand il nous dit cela. Hein. Parce que je suppose quand même qu'il y a des gens à notre époque qui sont capables de se réjouir dans une fête et de trouver une euphorie collective efficace et bénéfique. Mais en même temps, je reprends ma formule, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savions pas de quoi il parle.
Et, ça veut dire quoi cette formule ? Hein ? Ça signifie quoi en fait cette formule ?
Ben, ça signifie que...
De quoi parle-t-il ? Plutôt que de dire qu'on sait bien de quoi il parle, disons...
Ben, je parle de la désagrégation du lien social, de l'atomisation, de l'individualisme, de la solitude. Ce sont des choses qui existent. Même si nous ne sommes pas les plus affligés, nous savons bien que certains souffrent, mais c'est pas ceux évidemment à qui on tend le micro le plus souvent et qu'on entend le plus. Par définition, les solitaires et les déprimés se taisent. Par beaucoup de côtés, Houellebecq leur donne la parole. Et il fait partie de ces gens-là. Je dirais que d'une certaine façon, ça ne lui est pas difficile car il en fait partie. Donc c'est un loser. Mais un loser qui a gagné quand même, parce que maintenant, son succès est immense. Donc il y a eu évidemment un retournement de situation.
Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un loser ?
On ne le dira plus guère.
Et pourtant, il continue d'écrire des histoires
de losers. Sans doute a-t-il gardé en lui-même les thèmes qui viennent de son enfance et qui sont vraiment son fond. Mais il y a eu un retournement depuis son deuxième roman, surtout.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Allez, on va continuer de parler du loser sublime, Michel Houellebecq, avec vous, Bruno Viard. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'université Aix-Marseille et spécialiste de l'écrivain. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues, avec aujourd'hui la visite de Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio.com. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Aujourd'hui, vous voulez nous parler du roman bien connu 1984.
Eh bien oui, en fait, je vais vous parler d'actualité et de faits alternatifs. C'est une expression utilisée par la Maison Blanche pour justifier un mensonge éhonté. Alors, ces faits alternatifs ont dopé depuis quelques jours les ventes aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure en France, d'un classique donc de la science-fiction, c'est 1984 de George Orwell. Il a été tellement demandé aux États-Unis que l'éditeur, eh ben, en fait, il a dû réimprimer à la hâte le livre en plusieurs milliers d'exemplaires. Alors pour rappel, 1984, c'est donc un roman de science-fiction, une dystopie plus exactement, puisque le roman décrit une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire. L'action du roman se déroule en Grande-Bretagne, plusieurs années après qu'une guerre nucléaire eut refaçonné le monde en trois blocs qui s'affrontent. Le personnage principal, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité et il y manipule les archives pour que le passé corresponde exactement aux idées et aux actions du parti au pouvoir. Il est, comme le reste de la population d'ailleurs, contrôlé par la police de la pensée. Donc voilà, c'est un roman profondément pessimiste qui se retrouve en tête des ventes.
Et alors, c'est un livre qui est très lu par les lecteurs de Babelio, très commenté sur votre site.
Oui, alors sur Babelio, c'est le sixième livre le plus populaire de tous les temps. C'est aussi le premier livre de SF à être du classement, même si de fait les littératures de l'imaginaire y sont plutôt bien représentées. Alors, il y a environ 450 critiques du livre à ce jour, dans l'ensemble très positives. Presque tous les lecteurs ont été marqués par cet ouvrage. Et alors parmi l'ensemble des critiques les plus appréciées par les lecteurs de Babelio, eh bien on retrouve d'ailleurs une critique du livre. Elle est signée L'Univers, je vous en cite un extrait. 1984 est un condensé de toutes les méthodes qui existent aux quatre coins du globe pour cadenasser la pensée, la peur constante de la délation, la capacité des foules à absorber n'importe quel mensonge, pourvu qu'on le lui répète assez souvent, la falsification des faits historiques, l'appauvrissement de la langue pour rendre impossible la formulation de certaines pensées, la création d'un ennemi commun à haïr. Voilà, difficile de ne pas y voir un certain écho avec l'actualité politique.
Et les écrivains, Pierre, comment se sont-ils exprimés sur les élections et l'élection de Donald Trump?
Alors, de nombreux auteurs ont pris parti. Ils sont particulièrement visibles sur Twitter, en attendant peut-être des romans ou des essais, nous verrons. On trouve surtout des auteurs qui ont pris position contre Trump, mais si vous avez des exemples d'auteurs qui ont pris position pour Trump, je suis preneur. Alors, on peut citer, parmi ceux qui sont plutôt critiques à l'égard de son action, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, William Gibson, l'auteur du Néromancien, mais aussi Stephen King. Dès les débuts, d'ailleurs, de la campagne de Donald Trump, Stephen King avait signé avec 500 autres auteurs américains une pétition pour alerter les Américains du danger potentiel de la candidature de Trump. Ils n'ont, semble-t-il, pas été très écoutés. Alors, Joyce Carol Oates, qui s'est elle aussi manifestée, a écrit un tweet assez drôle en référence à Alice au Pays des Merveilles. Quand même Stephen King est horrifié par la situation, eh bien, vous savez qu'on vient juste de traverser le miroir. Alors voilà, donc Salman Rushdie, Jonathan Franzen ou encore Art Spiegelman ont également manifesté leur désarroi. Reste à voir quel sera l'impact des élections américaines sur leurs œuvres et plus généralement sur la littérature. Et les écrivains vont-ils s'emparer du sujet? Michel Houellebecq peut-être?
C'est une bonne question qu'on peut vous poser, Bruno Viard, parce que finalement Donald Trump, il est assez antilibéral, hein, sur tous les points de vue d'une certaine façon. Peut-être qu'il pourrait plaire à Michel Houellebecq, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je suis pas très compétent pour en parler, mais d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si Trump est si antilibéral qu'il...
Bah, en tout cas, il est pour la fermeture des frontières.
Oui, oui, oui.
Moralement, il n'est pas très libéral non plus.
J'ai entendu certaines voix
dire... Et pourtant, lui-même a un comportement très libéral avec les femmes.
Dire qu'en dessous, c'est peut-être plus compliqué. Bon, mais je ne vais pas être très éloquent là-dessus, parce que c'est une question un peu à côté.
Oui, mais on peut, en revanche, parler peut-être de l'Europe, parce que Michel Houellebecq a dit qu'il était profondément anti-européen.
Oui. Il ne s'est pas beaucoup expliqué là-dessus. Je vais rapprocher ça d'un autre fait qui est l'apparition dans deux de ses romans, La carte et le territoire et soumission, d'un intérêt pour le distributivisme. Cette doctrine anglaise développée par Chesterton au XIXe siècle, très mal connue, mais qui consiste en gros à souhaiter des micro-entreprises très locales et si possible réduite à une taille familiale. Mmh. Autrement dit, il y a là un idéal de petite échelle, de fonctionnement économique et social à très petite échelle, et donc pour lui, Maastricht certainement est en effet la porte ouverte à l'ultralibéralisme qu'il déteste.
Merci beaucoup Pierre Cross, on vous retrouve très bientôt, et dans l'intervalle, rendez-vous évidemment sur le site babilio.com.
Thank you.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons toute la semaine de Michel Houellebecq pour tenter de faire le point sur cet écrivain qui est aussi une star, un catalyseur à polémique, sans oublier, selon ses propres dires, un ethnologue de la société occidentale.
Il y a une question qu'on est assez rapidement amené à se poser dès qu'on est traduit, principalement quand on commence à être traduit. À qui s'adresse-t-on, en fait ? Quels sont les pays en état de vous comprendre ? Un auteur, évidemment, souhaite que ce soit le monde. Je le souhaite aussi, mais pour répondre honnêtement, je pense que dans mon cas, c'est plutôt l'Occident. De manière assez large quand même, les pays en quelque sorte en début d'occidentalisation sont sensibles à mes livres. La Russie, par exemple, la Russie, dirais-je. Donc oui, ethnologue de la société occidentale, ça me convient.
Ce sont des livres pour occidentaux, les livres de Michel Houellebecq, Bruno Viard.
Plus. Il me semble que le processus de libéralisation et de passage à la modernité, il est entendu qu'il a commencé en Europe, mais il diffuse dans le monde entier. Et si je voulais dire un mot du colloque que j'avais organisé il y a 4 ans, il y avait... Pardon ?
Celui d'Édimbourg, non, celui de Marseille ?
Alors, il y a eu celui d'Édimbourg en Écosse. Le second a eu lieu à Amsterdam, et celui auquel je fais allusion, c'était le troisième, donc c'était à Marseille. Et nous avions des personnes de 14 nationalités, participants de 14 des universitaires, ce qui montre bien l'intérêt, en effet, immense.
Du monde entier, alors, y compris d'Asie.
Alors, du monde entier, je vais pas faire un bilan détaillé, mais deux remarques quand même. Je ne suis pas sûr que Houellebecq soit traduit en arabe. Et pour des raisons évidentes, je sais qu'il en dispose beaucoup, je n'insiste pas, les pays musulmans. Il n'y avait pas de japonais, mais je pense que c'était accidentel parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à Tokyo et je peux vous dire qu'il est très lu parce que toutes les sociétés connaissent aujourd'hui cet individualisme dont nous parlons. Nous n'avons plus ce privilège aujourd'hui en Europe.
Vous dites que la culture avouée du ressentiment de Houellebecq fait de son esthétique une esthétique esclave. Et c'est une expression, l'esthétique esclave, que j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être un peu plus précisément. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce terme-là ?
Une esthétique esclave ou une conscience esclave ?
Conscience esclave,
oui. En effet. Ce que je veux dire, c'est que les personnages houellebecquiens, qu'on peut largement identifier à l'auteur lui-même, il y a tout un jeu de cache-cache entre le personnage et l'auteur, nous avons tous appris à l'université en narratologie à ne pas confondre, à bien faire le distinguo quand on lit Proust ou n'importe quel auteur d'ailleurs. Chez Houellebecq, c'est très subtil, parce qu'on a souvent des narrateurs qui parlent à la première personne et qui s'appellent justement Michel et qui ressemblent fort. Ils professent les mêmes idées sur le même ton et le même style que l'auteur. Donc, je veux bien être prudent d'un point de vue méthodologique, mais quand même essayer de voir les choses. Autrement dit, le personnage qui dit « je », que ce soit « je » ou que ce soit « il », on a des personnages de perdants qui ont quelquefois des sentiments de déréliction, de misère ou de ressentiment, comme Lovecraft par exemple, auquel on a fait allusion, et ces sentiments qui sont de vilains sentiments, il ne faut pas se tromper sur leur exemplarité. Ils n'ont pas d'exemplarité. J'aurais envie de dire qu'à beaucoup d'égards, Houellebecq est quelqu'un qui nous dit, bon, je caricature, je ne sais pas s'il serait content de m'entendre dire ça, regardez comme je suis et vous aurez l'exemple le plus affligeant qu'on puisse concevoir de ce que la modernité est en train de produire.
C'est donc terrible,
voilà
ça.
L'efficacité de ce discours du ressentiment.
C'est terrible quand même de dire ça.
C'est en effet un auteur qui a une audace, un culot, exceptionnel et qui a tantôt choqué, tantôt intéressé, mais qui peut intéresser beaucoup parce que nous avons tous nos misères et j'ai vu beaucoup de lecteurs, à commencer par certains étudiants, parce que je l'ai fait lire à des étudiants, qui se reconnaissent en lui parce que voilà quelqu'un qui dit tout et qui le dit de façon extrêmement directe et qui joue au jeu de la vérité à fond.
Vous avez cité Lovecraft, peut-être à cause et sans doute à cause du livre que Houellebecq a consacré à Lovecraft. Nous avons ici une archive sur ce sujet. Est-ce que vous voulez d'abord nous dire pourquoi Lovecraft vous est venu à l'esprit ou est-ce que vous préférez qu'on entende d'abord l'archive et que vous la commentiez ensuite?
Je peux essayer de dire un mot, puis on verra si l'archive correspond à ce que je vais dire. Moi, ce que j'ai surtout retenu de son essai sur Lovecraft, c'est la question du racisme. Je ne vais pas en parler longtemps parce que, à mon avis, ce n'est pas si central que ça. Mais c'est évidemment un point sensible. Or, ce qu'on trouve dans son essai sur Lovecraft, c'est une étiologie du racisme. Lovecraft est un auteur viscéralement raciste, mais quand on lit le texte de Houellebecq, on voit qu'il y a des causes. Et ces causes sont la dépression gravissime du personnage. Donc quand on met les choses en relation, ça relativise beaucoup ce racisme apparent.
Une des grandes forces de Lovecraft, c'est que l'idée qu'il a poursuivie toute sa vie, c'est que toute forme de vie, quelle qu'elle soit, est abominable. Que la vie en elle-même, qui est une espèce d'individualisation, de lutte permanente, d'action consistant à se dévorer, à se pourchasser, à se tuer, est une chose abominable. Et vous voyez, bon, par exemple, quand... Je sais pas, il y a eu tout un mouvement à cette époque-là, il y a quelques années plutôt, avec E.T. par exemple. Il y a toute une espèce d'espoir de science-fiction du genre « nous ne sommes pas seuls », enfin, qui que j'ai ressenti comme aboutissant à dire « bon, l'humanité est une chose abominable, les êtres humains sont abominables les uns avec les autres ». Mais certainement, une race extraterrestre plus intelligente, plus sage, saurait construire un monde meilleur. Enfin, ce genre de choses, vous voyez. Bon, chez Lovecraft, tout ça n'a pas de sens, quoi. Une race supérieure serait plus méchante, plus mauvaise. C'est un peu pour ça que son cosmos est désespéré. Il n'y a aucune échappatoire.
Ça va dans le sens, Bruno Viard, de ce que vous venez de dire, cette archive de Michel Houellebecq sur Lovecraft.
Oui, ça ne correspond pas au commentaire que j'ai fait, mais...
Ça n'est pas non plus antithétique.
Non. Derrière Lovecraft, il y a Schopenhauer, hein, donc nous sommes d'accord hein, sur ce pessimisme foncier, il est bien là. Mais je crois que, oui, je dirais deux choses, notre auteur est hanté par la décomposition, que ce soit la décomposition organique ou la décomposition sociale. Et pour commenter cela, il me semble qu'on peut avoir une entrée du côté de la psychologie, et notamment ses relations avec sa mère et quelque chose de très psychologique, mais d'autre part, la religion. C'est un thème dont on n'a pas encore parlé et qui me semble tout à fait central, pas seulement avec Soumission, parce que ça traverse toute l'œuvre de Houellebecq.
On a dit religieux. Que la Vierge Marie était très présente.
Oui, j'ai cité la Vierge Marie, mais pas que. Il ne cesse de répéter qu'une société ne peut vivre sans religion. Si vous voulez, je repars de l'appréciation que je faisais tout à l'heure, de dire qu'il était inclassable politiquement parce qu'il n'est ni à gauche ni à droite. Et c'est pour ça qu'il dérange tellement. Alors, on l'a vite catégorisé dans la droite réactionnaire. Il y a des raisons pour ça. Mais en réalité, on pourrait aussi bien le mettre à l'extrême gauche, puisque son hostilité au libéralisme le conduit à s'intéresser beaucoup au
en
socialisme.
En tout cas, il n'est pas au centre, ça c'est sûr.
Non, il est certainement... Ah non, il est aux extrêmes, on est toujours aux extrêmes. Mais alors, sur la question religieuse, il me semble qu'il faut ajouter quelque chose, et je reviens à mon logiciel caché. je me suis aperçu de quelque... Il y a une chose qui m'avait échappé et que j'ai découverte en compulsant le numéro des Cahiers de Lerne qui vient donc de paraître. Mm-hmm. C'est un éloge du Moyen-Âge qui est, je crois, qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. La Vierge Marie et la communion des saints, mais aussi le Moyen-Âge. Pourquoi le Moyen-Âge ? Parce que c'est un modèle de société organique. Et ça nous renvoie justement au fondement du socialisme. L'origine du socialisme n'est pas du tout le marxisme, comme on le croit quand on parle trop vite, c'est le saint-simonisme. Qu'est-ce que c'est que le saint-simonisme ? C'est un mouvement de pensée c'est une nouvelle religion qui s'est instituée en France entre 1825 et 1832. C'est la véritable origine du socialisme français et aussi allemand, parce que Marx est un disciple de Saint-Simon, est un enfant de Saint-Simon, je n'exagère pas trop en le disant. Or, ce socialisme saint-simonien était fondamentalement religieux. Vous avez bien vu, nous avons tous bien vu, l'immense intérêt que Houellebecq porte à Auguste Comte, mm-hmm. surtout dans les particules élémentaires. Or, qu'est-ce que c'est qu'Auguste Comte ? C'est un disciple de Saint-Simon. C'est à la fois l'organisation du travail, parce que le socialisme, ça commence par l'organisation du travail, contre le libéralisme, mais c'est aussi une société religieuse. Avec l'analyse suivante, c'est le propre du saint-simonisme, que de décrire l'alternance des sociétés organiques et des sociétés critiques. Les sociétés critiques sont entièrement vues de façon péjorative, et on fait l'économie des droits de l'homme dans cette critique. Donc c'est intéressant, mais c'est grave. Et au contraire, l'accent emphatique est entièrement mis sur les sociétés organiques. Là se trouve le lien avec le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est admirable. Il était déjà pour les saint-simoniens, pour Auguste Comte, je présume, et pour Houellebecq, parce que c'est une société holiste, si vous voulez, où nous sommes tous ensemble, réunis dans une foi commune. Alors, le socialisme, tel du moins que les saint-simoniens et Auguste Comte le concevaient, c'est pourquoi Houellebecq s'y intéresse, sera aussi un socialisme holistique. J'ai pas dit totalitaire, mais il y a quand même ce risque. Et du coup, et je fais le lien avec ce que j'appelais tout à l'heure la vision historique de Houellebecq, eh bien, la Renaissance ne le fait pas du tout sourire, et il parle même, d'une façon qui paraît extravagante, de la médiocrité de l'art de la Renaissance. Alors, nous sautons tous au plafond, nous ne pouvons pas comprendre, mais ça vient de son a priori organique et holistique, si vous voulez. Il ne peut pas apprécier ni la Renaissance, ni la réforme protestante, et j'ai compris tout récemment pourquoi il traite les gens du guide du Routard de... Il a une expression que je ne répéterai pas, mais ceux de protestants, de connards protestants. Hein, je pense que son sentiment viennent là. Donc là, on est effectivement dans des turbulences graves. Et pour finir mon propos, les Lumières et la Révolution n'auront pas grâce à ses yeux non plus dans cette perspective.
Donc c'est un pur anti-moderne. Quelqu'un qui regrette absolument, finalement, la chute, quoi, même de l'Ancien Régime et même peut-être avant encore l'Ancien Régime.
Je crois que c'est un anti-moderne systématique. Oui, en effet. Donc nous sommes dans la nostalgie d'une pensée organique. Ce que je voulais vous faire observer, cette nostalgie de pensée organique le range à beaucoup d'égards du côté des grands penseurs réactionnaires du XIXe siècle, comme Bonald, comme De Maistre.
Peggy.
Plus récemment, je ne rangerai pas Peggy, non. Peggy était un républicain convaincu, un fervent de Robespierre. Peggy est un catholique de gauche. Hein, c'est donc très différent. Mais le cas Peggy est intéressant parce que Houellebecq l'admire beaucoup. Mais c'est, voilà, il y a du côté de la République aussi un côté organique. Alors, pour terminer ce point, d'un côté, Houellebecq se trouve du côté des grands penseurs réactionnaires, et j'aurais pu citer Maurras, bien qu'il n'y ait absolument aucun antisémitisme chez Houellebecq. Hein, au contraire. Ça, il faut bien être clair là-dessus.
Oui, en lisant Soumission, d'ailleurs, on le comprend assez.
On voit bien que c'est sa petite amie Myriam, qui est tout à fait charmante et juive.
Mais cette pensée. On reproche d'ailleurs aussi à Houellebecq, parce que ça apporte de l'eau au moulin de la question de l'islamophobie chez Houellebecq.
Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas très convaincu. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que la pensée organique, c'est le propre de la pensée socialiste aussi, en tout cas saint-simonienne. Hein. Vous voyez, cette pensée organique peut mettre notre auteur aussi bien dans une droite très archaïque que dans une gauche religieuse. Ce qu'on ne trouve pas dans le marxisme. Et il attaque assez souvent le marxisme parce qu'il n'y a pas de religion dans le marxisme. Mais il y a aussi une religion républicaine. C'est pour ça aussi qu'il s'intéresse à Robespierre et qu'il y a des héros républicains chez lui, comme Alain Tanner dans Soumission.
Alors ce Alain Tanner vous intéresse, c'est le personnage qui a travaillé à la DGSE et qui a été renvoyé de la DGSE. Pourquoi est-ce qu'il vous intéresse tant que ça?
Parce que... Si vous voulez, la majorité des personnages houellebecquiens sont invertébrés. Et Alain Tanner est tout à fait exceptionnel, c'est peut-être pas le seul, parce qu'il a une colonne vertébrale, justement. C'est-à-dire, c'est un patriote républicain et aussi gaulliste. Donc voilà, un homme qui a des convictions. Or, Houellebecq lui dresse une statue tout à fait remarquable dans le centre de Soumission, où il occupe peut-être une vingtaine de pages. Il s'intéresse aussi à Peggy, justement, et il lève son chapeau devant la culture médiévale et la civilisation médiévale. Donc là, voilà des axes, si vous voulez, qui appartiennent malheureusement au passé. C'est pourquoi le pessimisme houellebecquien est noir, mais... il y a assurément la nostalgie d'une société organique dont la République a donné une image, surtout la Troisième République. Parce que à partir de Verdun, ça c'est la vision historique de Houellebecq, et je crois qu'il a assez raison, eh bien il y a eu une dégringolade qui a commencé, qui a mené à juin 40. De Gaulle nous a quand même relevé de l'ornière, mais la dégringolade a continué, si on suit sa pensée.
Est-ce que cette vision... historique, finalement, cette lecture qu'on ne fait pas beaucoup, en tous les cas qu'on n'entend pas beaucoup au sujet de Houellebecq. Est-ce que vous avez le sentiment que les lecteurs, à défaut de le comprendre, en tous les cas, le ressentent et que ça peut faire partie des raisons du succès de Michel Houellebecq?
Alors, on peut dire oui, dans la mesure où... il nous parle de nos problèmes intimes, et nos problèmes intimes tiennent notamment à ce thème de la déliaison dont nous venons de parler. Quand on parle de société organique, ça veut dire société liée. Donc la déliaison, c'est quelque chose, en effet, que nous connaissons tous peu ou prou, en tout cas. Hein. Bon. Mais par ailleurs, quand je disais logiciel caché, je veux dire que c'est un auteur qui n'abat pas toutes ses cartes et qui a en réalité beaucoup de livres sur les genoux. Je crois qu'il a une culture étonnamment abondante et diverse.
Vous croyez qu'il joue les naïfs quand il donne des interviews?
Il est extrêmement costaud en philo, en littérature, en sciences. Il connaît les médias à fond, mais il n'abat pas toutes ses cartes. Voilà. C'est pourquoi je crois utile une lecture méthodique de tout lire de A à Z, et il m'est arrivé, je vous l'ai dit encore la semaine dernière, de faire des découvertes, de mettre de nouvelles pièces dans le puzzle qui, sauf si je suis amené à reviser les choses, me permettent, en tout cas c'est l'espoir que j'ai, de comprendre comment ça marche.
En tout cas, ce que l'on peut dire, et nous terminerons par là, c'est que Houellebecq n'est jamais futile, Houellebecq n'écrit jamais rien pour rien.
Non, il n'est jamais futile. Il n'est jamais futile. Peut-être on peut illustrer ça par la question de l'islam, pour revenir à Soumission, hein, puisqu'on n'en a pas tellement parlé. Ça paraît être une grosse farce. J'ai dit moi-même qu'il y avait un côté comédie, mais ce qu'il y a d'important dans Soumission, c'est il y a deux choses. Une religion, presque n'importe laquelle, mais celle-là. Alors il prend celle qui est là sous la main et qui est la plus présente, et la famille.
On aurait voulu vous entendre encore sur cette question, mais l'heure tourne. Je vous remercie beaucoup, Bruno Viard, d'être venu nous parler de Michel Houellebecq, à qui vous avez consacré une partie importante de votre carrière universitaire. Je rappelle que vous avez publié « La République insoumise, réponse à Michel Houellebecq », c'est aux éditions Mimesis, ainsi que Houellebecq au laser, « La faute à mai 68 » aux éditions Ovadia. Demain, nous recevrons Thomas Clair, lui aussi universitaire. Il signe un article dans le numéro des Cahiers de Lerne consacré à Michel Houellebecq. Et puis en seconde partie, Clémentin Rachet, architecte, qui nous parlera de la ville chez Michel Houellebecq. Mais tout de suite, c'est la poésie d'Eugenio de Andrade, lue par Jacques Bonafé sur France Culture.
Bonjour. Troisième jour avec Eugenio de Andrade, le poète portugais. On se retrouve à peu près dans le même état qu'hier. Soleil implacable, matière solaire. Je suis à toi de connivence avec le soleil, dans cet incendie du corps jusqu'à la fin. Les mains si avides à leur envol, la bouche qui sur ta poitrine oublie de vieillir et s'est encore refusée. Et comme on avait entamé un dialogue entre deux allumés du soleil, Ludovic Janvier dans Bientôt le soleil et Eugenio de Andrade dans Matière solaire, voici une petite citation du Ludovic Janvier se prenant pour le peintre Bonnard, Pierre Bonnard. Très ensoleillé aujourd'hui, vertige, le jour, ce pays de vertige entre le monde et moi. C'est tout simple, pendant que vous partiez, je restais. Je ne dis pas que je n'ai pas bougé, je me suis déplacé pour mieux être et pour mieux respirer. Retour à Eugenio de Andrade, Matière solaire, ce qui respire en toi, ce sont les yeux. Le bleu d'un soleil sans rides, les premières eaux de la caresse. La bouche a un tel goût de barque, cela s'appelle jeunesse quelquefois, ou étoile de sang vif. Le dos tourné à la nuit, la terre, tant qu'elle brûle, est presque un fleuve. Autre poème. Maintenant ce sont eux qui possèdent ton visage, les mots. Et pas seulement le visage, le sexe et la tremblante joie qu'il y avait toujours à le sentir en éveil. Sans mots, nous ne sommes plus rien. Ils sont maintenant de profil. Observe comme ils reflètent ce que de jeune toujours il eut en toi, le même sourire seulement un peu moins fatigué et la démarche à peine moins lente. Autre page. Nous dormions nus à l'intérieur des fruits. C'est ce que nous avons, sommeil, et la soudaine sécheresse jusqu'à la fin. Amer. Par l'humidité, on descendait aux fontaines, je me souviens, des lèvres. Retour à Ludovic Janvier, dialogue avec Ludovic Janvier dans Bientôt le soleil aux éditions Floïc. Le bonheur? Quel bonheur? Vous parlez d'un bonheur, on l'arrache de l'instant comme une peau, le bonheur. Et d'ailleurs on s'arrache avec lui, à faire mal, pour tirer de soi les décisions qui feront loi, qui feront lumière. S'arracher de soi pour inventer le moment parfait sous le moment parfait. Faire voir ce qu'on entrevoyait.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.